Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le titre pour aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est 10 astuces pour lâcher prise. Alors les messages que nous faisons dans les églises et dans le monde chrétien, c'est plutôt des messages à tenir ferme, s'accrocher aux promesses, même quelque chose qu'on entend des fois dans le monde, rien lâcher, et donc tout dans un contexte un peu de bataille, de faire des efforts. Mais vous réalisez aussi que pour pouvoir saisir certaines choses, il faut en relâcher d'autres. Donc, ce sera quelques conseils pour vivre l'instant présent. L'instant présent, on peut dire, c'est aussi le maintenant. Maintenant, réfléchissons juste au sens du mot, maintenant, c'est la main qui tient. Maintenant, ça veut dire, c'est en ce moment même, c'est à moi, c'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je possède. Maintenant, je le tiens de ma main. Donc, entre nos journées de travail, études, préoccupations, engagements, les enfants, la famille, donc chacun se situe où il en est, on a du mal à lâcher prise. Et donc, pour vivre enfin pleinement le moment présent, voilà 10 idées pour relâcher la pression du quotidien. Premièrement, je m'accorde un plaisir en faisant du shopping. Selon vos possibilités, votre budget. La Bible dit un certain nombre de choses sur les besoins basiques que nous avons et sur l'argent. 1 Timothée 6,6 dit « Il faut se contenter de ce qu'on a ». Et un peu plus loin, il dit « Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira ». Donc ça, c'est les besoins basiques. Mais on a aussi des besoins de notre âme. Donc dans le contexte de ce que j'ai dit, de nos préoccupations, de journées super chargées, alors des fois, on doit l'avouer, céder à une envie peut redonner le sourire. Ça peut être une petite chose, un éclair à la vanille pour 1,50 €, hein, ça peut vous redonner le sourire. Ou pour ces dames, pour se sentir bien, je n'hésite pas à craquer sur une tenue qui me fait envie. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbes 31,22, la description de la femme vertueuse de la Bible, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Il n'est pas dit, elle est habillée de haillons et elle a juste besoin d'un sac pour la recouvrir. Donc, il nous est dit aussi un autre aspect de ce qu'elle recouvre, la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Et elle rit en pensant à l'avenir. Donc, ces petits plaisirs permettent d'évacuer le stress, de retrouver une excitation étouffée par le poids d'un quotidien parfois oppressant. Après le travail, je cours choper en laissant derrière moi les soucis professionnels ou personnels. Si la journée a été plus difficile, le relâchement en sera plus bénéfique. Ça vaut mieux que repasser dans notre tête les moments difficiles. Ça vous fait une échappatoire, vous pensez à autre chose, vous donnez un moment de plaisir. Vous pouvez aussi le faire par le e-shopping, hein, acheter des vêtements ou des chaussures pour le plaisir. Il ne s'agit pas forcément de faire des folies ou d'acheter n'importe quoi. Je me rappelle d'un homme dans un de nos groupes de prière, il avait acheté un camping-car sur un coup de tête sans en parler à sa femme. Ça vous montre un peu le problème qu'il y avait dans sa tête et dans leur couple, hein. Mais bon, ça pour moi c'est pas un petit shopping pour se faire plaisir. Donc chacun verra, hein. Mais gardez cette idée que ça peut avoir sa place dans notre quotidien pour relâcher la pression. Deuxième point, je redeviens ma meilleure amie. Donc je m'efforce de faire taire mon critique intérieur. Bien sûr, ça s'adresse pas à des gens qui sont nonchalants, ils s'en fichent, ils n'ont pas de conscience professionnelle ou d'autres choses. Mais pour beaucoup d'entre nous, je vais supposer que nous sommes des gens sérieux, qui cherchent toujours à bien faire et qui sommes exigeants avec nous-mêmes, peut-être même on court après la perfection. Donc à un moment donné, il faut faire taire son critique intérieur, son surmoi tyrannique, et me traiter avec indulgence et gentillesse, comme je le ferais avec quelqu'un que j'aime. Je m'encourage avant un effort et je me récompense une fois la tâche finie. Matthieu 19, 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, des fois, on est capable de faire beaucoup d'efforts pour être aimable avec certaines personnes et soi-même, on se maltraite. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous vivez d'abord avec vous-même, très longtemps. Troisième point, donc toujours pour relâcher ces pressions. Je fais du sport quand je veux. Quand je veux. On a déjà assez parlé des bienfaits du sport. En fait, il faut bouger. Alors, je recherche ce qui me convient. J'oublie peut-être l'inscription dans une salle de sport, ou la piscine en hiver, ou le cours de gym le mardi à 20h. Hein, surtout le mardi à 20h, on oublie le cours de gym. Vous savez pourquoi? Donc, parce que je me connais, j'irai pas. Et ça représente une nouvelle pression, une contrainte. Il y a des horaires, il y a des déplacements. Donc, des fois, dans une vie active qui est déjà très, très orchestrée, de faire ça en plus, finalement, ça ne nous apporte pas le bénéfice qu'on en attend. Mais ça apporte une contrainte supplémentaire. Donc, avoir à chacun ce qui lui fait du bien. Une activité sans risque pour la santé. D'ailleurs, les choses les plus simples pour notre santé, c'est la marche, le vélo, la natation. D'autres sports peuvent être agréables, mais des fois, il y a toujours un côté négatif pour la santé. Certains sports sont violents pour les articulations, des choses comme ça. Donc, chacun doit voir ce qui lui fait du bien. Je prends un morceau de la Bible, 1 Timothée 4, 8. Il nous est dit, en effet, l'exercice physique est utile. Bien sûr, le sport peut avoir d'autres vertus, le fait d'être en collectif, en équipe, on peut développer d'autres choses. Mais là, nous parlons d'un point de vue personnel, de ce qui me fait du bien. Donc, marcher, courir, faire du vélo, selon le cas, ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, au moment où ça vous fait du bien. Les Indiens d'Amérique du Nord, chez les Apaches, ils disaient en particulier « Quand tes jambes ont envie de courir, fais-les courir. » Ça veut dire qu'il faut y aller sur des fois des impulsions, on a besoin de courir et on sait que ça évacue aussi des choses. Donc, numéro 4. Le week-end, j'éteins l'ordinateur et je m'occupe de ceux que j'aime. Ou coupez-vous d'autres choses si votre travail vous poursuit ou occupe vos pensées. Donc, savoir couper. Marc 2, 27, Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Un jour de repos nous est donné par Dieu. C'est pas un jour religieux qu'il faut observer et encore une contrainte supplémentaire. C'est une grâce de Dieu qu'il a donnée qu'au moins une fois tous les 7 jours, on puisse se reposer pour recharger nos batteries. Dans un monde d'esclaves, c'est la parole de Dieu qui libère les hommes. Alors le télétravail le dimanche, très peu pour moi. Si vraiment j'ai trop de boulot, je prends rendez-vous avec mon boss, je lui propose d'établir des priorités. Et surtout, je m'engage sur des délais raisonnables. Je peux aussi négocier. Si vous me déchargez de ceci, je mets à ce dossier tout de suite. Si je suis mal organisé, je revois mes méthodes. Le matin, je définis clairement mon objectif de la journée. Je ne me laisse pas distraire par Facebook et je ne compte pas mes mails plus que 3 fois par jour à heure fixe. Par exemple, c'est juste pour donner des pistes un peu dans certains sens, pour ne pas se laisser justement submerger par le travail et les pressions. Et que ça ne déborde pas dans notre temps où on a besoin de se renouveler, de se reposer, ou de couper le week-end, l'autre jour. Ça peut être un autre jour, selon les professions. En général, par exemple, chez les coiffeurs et les banques, c'était le lundi que c'était fermé. Donc, quelqu'un peut sanctifier le lundi pour Dieu. Et pour son repos et pour son renouvellement. Numéro 5. J'écoute mon biorhythme. À ma pause de midi, je m'abonne quotidiennement à une sieste flash de 5 minutes, ou une sieste express de 10 minutes, ou standard de 20 minutes. Ça peut être sur un tapis, ou semi-assis dans un fauteuil, la tête et les deux bras posés sur une table ou un bureau. J'avais lu d'un homme d'affaires très important. Il avait trouvé que ce qui lui faisait du bien, c'est d'être couché par terre, sur le dos, et d'avoir ses jambes un peu surélevées. Donc il avait constaté que, en fait, ça lui faisait un renouvellement, ça irriguait son cerveau et ça lui faisait du bien. Donc chacun doit trouver ce qui lui fait du bien, mais c'est prouvé scientifiquement qu'une coupure, une petite coupure, ça recharge les batteries, vous êtes plus efficace après que d'essayer de faire le forcing. Et si j'arrive pas à faire ce repos dans le sens dormir, si je n'y parviens pas, je prends l'habitude de m'accorder un temps de récupération, par exemple silencieux. C'est important aussi. Après le travail, donc toujours dans le sens biorhythme, je prends du temps pour moi. Il y a des gens qui se précipitent pour vite rentrer à la maison pour de nouveau faire des choses. Mais on peut aussi imaginer que je vais flâner 5 minutes dans un parc ou dans mon jardin pour justement arriver à vivre certaines choses où c'est comme un sas, comme une transition. Je quitte un endroit pour aller dans un autre, mais je le fais en douceur pour ne pas me retrouver de nouveau pris dans un engrenage de choses. Donc chacun va voir ce qui lui fait du bien. Prendre un bain en arrivant ou une douche selon le cas, parce qu'on dit que la douche, ça a des effets bénéfique sur le corps parce que ça projette sur nous les ions négatifs, vous savez, et que nous sommes bombardés par notre électronique partout d'ions positifs qui ont un effet fatigant sur le corps. Donc, c'est à chacun de voir, tiens, des choses pratiques qui me font du bien. Et on ne peut pas dire, tu devrais faire comme moi parce que tu n'es pas dans ma situation. Mais sachez que ça existe. Et même en fin de soirée, si j'ai trouvé la soirée trop courte, je ne résiste pas au bâillement, au signe des yeux qui fatigue. Je vais me reposer. Parce que si vous ratez le moment où doucement vous arrivez dans la nuit et que vous rejetez ou projetez vers la fin de soirée toujours plus ce moment où vous allez vous endormir, vous ne tenez pas compte de votre rythme naturel. Et alors vous êtes peut-être reparti pour un cycle et vous vous retrouvez avec des insomnies et d'un sommeil perturbé. Donc soyez attentif à votre corps. Et c'est important. On ne peut pas fixer une règle forcément pour quelqu'un d'autre, mais on peut donner des principes. Et sachez que dans chaque situation que j'énumère ici, vous avez la parole de Dieu pour vous soutenir. Psaume 127, 2. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que si on respecte certaines choses, il y a directement une promesse de Dieu qui nous est donnée pour notre renouvellement, pour que Dieu nous montre qu'il veut nous bénir. Hébreux 4, 3. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc se reposer et lui faire confiance, c'est lâcher prise. Vous voyez, au lieu de prolonger la journée, dire « il faut encore que je fasse ci, il faut encore que je fasse ça », il y a des moments où on fait cet acte de confiance et on voit que Dieu bénit. Numéro 6. Je montre que j'ai du cœur. Chaque jour, je trouverai quelqu'un à aider. Ça fait que je n'ai pas la pression sur moi-même, sur mes performances, sur tout ce que je dois accomplir, sur tout le travail qui est devant moi. Mais je regarde aussi autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour bénir quelqu'un. Est-ce que c'est une poussette à porter pour sortir du métro, un renseignement à donner, tenir une porte à quelqu'un, ça peut être des choses très simples. Mais vous pouvez déjà avoir remarqué dans la vie du quotidien que les gens sont tellement de... Il faut gagner du temps. Si la personne vous suit à 5 mètres, beaucoup ne vont pas tenir la porte. Ça leur ferait perdre une seconde. Alors que ça change la vie de la personne. Vous êtes heureux d'avoir peut-être rendu un simple service, de tenir la porte. La personne, ça leur a rendu heureuse qu'on soit attentive à elle et qu'on lui a tenu la porte. Ça ne coûte pratiquement rien du tout. Et ça bénit énormément. Donc, soyez attentifs et que Dieu vous donne des bonnes idées, toutes simples. On peut faire d'autres choses en ayant du cœur. On peut donner son sang une fois par an, par exemple. On peut visiter quelqu'un qui est malade ou en prison, quelqu'un qui est vieux ou isolé. Référence biblique, Matthieu 25, 35. Jésus a dit, « En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Et alors les gens disent, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé et donné à manger, assoiffé, t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Quand avons-nous vu nu et t'avons habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc s'il vous fallait encore un argument de plus pour avoir du cœur et faire du bien autour de vous, sachez que Jésus lui-même a dit, quand vous faites ces choses pour quelqu'un, c'est en réalité comme si vous les faisiez pour moi-même. Donc c'est quand même gratifiant. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour montrer que vous avez du cœur? Allez-y de votre imagination, mais vous pouvez inviter à dîner quelqu'un qui sont dans la difficulté, peut-être des copains qui sont dans la dèche, une fois par mois. Vous pouvez téléphoner à votre mère une fois par semaine. Il s'agit pas forcément du téléphone. Là encore, tout dépend des circonstances. Mais des gens, ils ont marié, ils ont fondé un nouveau foyer, mais il faut tout le temps qu'ils gardent ce cordon ombilical. Mais ça ne veut pas dire que parce que on forme une nouvelle famille ou on est éloigné, que maintenant il ne faut plus tenir compte des parents. Au contraire, on peut les honorer, on peut garder le contact, on peut faire du bien. Et pour finir, montrer que j'ai du cœur, chaque jour, je n'oublierai pas d'embrasser mon amoureux ou amoureuse et de lui dire que je l'aime. Eh oui, des fois, il faut même le préciser, ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que l'amour, il faut l'exprimer. C'est pas juste dans la tête. Et pas « je t'aime », voilà, une fois pour toutes, c'est dit, et terminé, hein. Numéro 7. Très bien. Une personne qui suit. Je refais mon carnet d'adresses. Une étude américaine réalisée en 2008 auprès de 5000 habitants a montré que le bonheur était contagieux. Une personne heureuse contamine les autres jusqu'au troisième cercle de leur connaissance. Comment ça s'explique ça? Mais est-ce que vous n'avez pas des conversations où des fois vous racontez ce que des amis ont fait ou dit? Et des amis que les autres ne connaissent pas, forcément. Donc vous voyez, des bonnes choses que des personnes proches de vous vivent, vous pouvez même les faire étendre à un cercle plus loin, et d'autres diraient, je connais des amis qui ont des amis, que... et ils vont raconter une bonne chose. Et finalement, il y a quelque chose de bien que vous pouvez vivre, ou avoir dit, ou avoir expérimenté, qui va se communiquer au-delà de votre propre vie, jusqu'au troisième cercle de vos connaissances. N'est-ce pas formidable? Alors c'est décidé, donc je refais mon carnet d'adresses, hein. Je ne m'entoure que des gens bienveillants. Je m'éloigne des relations toxiques qui me font souffrir. 1 Corinthiens, on a nouveau un verset biblique pour l'appuyer, comme ça on est sûr. 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce n'est pas seulement dans le sens de mœurs, c'est aussi les mauvaises compagnies ont un effet mauvais sur vous. Donc nous pouvons manifester de l'amour, on peut leur témoigner de Jésus, mais on ne devient pas ami proche avec quelqu'un qui est toxique, qui est négatif, qui vous tire tout le temps vers le bas. Donc pour tenir le cap, je prends un carnet neuf et je n'y inscris que ceux qui comptent vraiment. De temps en temps, il faut renouveler. Faites aussi le ménage de vos amis Facebook. Vous rendez rapidement compte les gens avec qui vous avez des contacts ou non. Ou ceux qui publient des choses qui ne nous intéressent pas, ou qui vous offensent, ou qui sont de contenu abusif par leurs critiques ou les choses négatives qu'ils véhiculent. Donc faites le ménage et que vos amis soient de vrais amis. Numéro 8. J'apprends à dire non. Combien de fois on n'ose pas dire non et on se met dans l'embarras? On promet des choses impossibles à tenir ou des choses qui nous font un stress important. Jacques 5, 14, « Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Non, c'est un petit mot tout simple, pas toujours facile à prononcer. Et pourtant, j'ai tant à gagner si je l'utilise à bon escient. Je me fais respecter et je gagne en confort de vie. Attention, mon nom sera d'autant plus crédible s'il est réfléchi, s'il n'est pas trop fréquent et s'il s'accompagne de vrais oui. Si je suis capable de l'assortir d'une contre-proposition, Pas juste non, j'ai pas envie, paf, terminé. Mais non parce que. Et si vous dites oui régulièrement, mais que vous dites une fois non, ben ça sera d'autant plus impressionnant. Tiens, là, il ou elle n'a pas accepté ou ne veut pas faire. Pourquoi ? À oublier les justifications sans fin qui trahissent votre gêne ou votre culpabilité. Vous n'avez pas toujours besoin de vous justifier. Et là, on aurait beaucoup de proverbes dans la Bible où il est dit justement « te laisse pas entraîner », etc. C'est non, et il y a des bonnes raisons, mais vous n'êtes pas au tribunal, vous n'êtes pas en train d'avoir besoin constamment de vous justifier. Donc on est toujours dans ce cadre de « qu'est-ce que je peux faire pour relâcher la pression, lâcher prise un certain nombre de choses ?» On en arrive au point numéro 9. Qu'on aurait pu mettre tout en haut peut-être, mais il a sa place. Je prends du temps pour mon amoureux. Et l'amoureux, c'est Dieu d'abord. Dieu est amour. C'est lui qui est la source de tout amour. Et quelle que soit votre situation conjugale, matrimoniale, etc., l'amoureux principal, c'est Dieu. Et si vous êtes capable d'avoir des relations de qualité avec les autres, c'est parce que vous avez déjà une bonne relation avec lui. Donc Dieu doit avoir la première place. Prends du temps de qualité avec lui. Il est une personne réelle. Parle-lui, pense à lui. Aime sa présence, expérimente la réalité. Et, par voie de conséquence, tu vis la même chose avec ton amoureux, ton amoureuse. Idem pour votre compagnon, compagne. C'est une personne réelle, c'est pas une chose, c'est pas un objet. Parle-lui, pense à lui et à elle. Aime sa présence, expérimente la réalité. Prends du temps de qualité avec l'être aimé pour les relations intimes. Crée un contexte positif pour ça. C'est comme ça, alors prenez les devants. Il faut créer du mystère, se détendre. On peut prendre un bain, se faire masser. Surtout, j'évite de me disputer avec mon conjoint avant de me glisser sous la couette. Vous trouvez ça ? Mais c'est pour illustrer le verset qu'on va prendre tout à l'heure. Il y a quelque chose à faire quand votre colère se manifeste ou quand il y a un désaccord avant que le soleil ne se couche. D'accord ? On verra ça tout à l'heure. Oui, et si on est veuf ou célibataire, mais on peut aussi vivre une amitié extraordinaire qui comble le besoin d'avoir une âme sœur. Un exemple biblique, c'est David et Jonathan. 1 Samuel 18 nous dit au verset 1 « Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aimait David comme lui-même. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira son manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Le fils du roi a tout donné à David pour montrer qu'il y avait maintenant une amitié, une alliance, quelque chose d'extraordinaire. » Et lorsque Jonathan est mort au combat, David a composé une ode en son honneur. Et dans 2 Samuel 1:26, il dit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. » Donc il montre qu'il y avait là une relation d'amitié extraordinaire. Donc vous pouvez vivre ces moments et là vous donnez la priorité dans votre vie aux choses essentielles, tout ce qui est du domaine de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de votre compagnon ou compagne, ou l'amour que vous pouvez avoir au niveau d'une amitié. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, donnez de votre temps pour ce qui est important, les relations. Et point numéro 10, je recycle ma mauvaise humeur. Lorsque la colère ou la tristesse me submerge, je n'essaie pas de la nier ou de la remplacer coûte que coûte par une pensée positive. Je la recycle. Je m'attarde sur le message qu'elle m'envoie. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Il ne s'agit pas de sombrer encore plus par des « si tu étais vraiment chrétien, tu ne te mettrais pas en colère », etc. Mais comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui m'a mis dans un tel état? Il faut régler le problème et pas le repousser ou l'enfouir. S'il m'arrive d'être de mauvaise humeur quand je suis fatigué, nous avons des mots très puissants à notre disposition, comme « pardonne-moi » qui peut régler la chose. Donc, en conclusion de ces quelques conseils, j'ai trouvé là un petit texte. Donc, vivre en conscience, c'est tout simplement être à l'écoute de tous les signes, tous les messages qui se produisent en abondance dans notre existence. En comprenant ce processus, vous aurez toutes les clés pour devenir maître de votre vie, créateur de votre vie. En outre, lors de cet accompagnement, vous apprendrez à mieux vous connaître, une étape essentielle pour accéder au bonheur et à la paix intérieure. Amen ? Ah ben non, pas amen du tout. C'était, excusez-moi, je vous ai embarqué dans un petit piège. Normalement, il devait y avoir une petite lumière qui s'allume là. Non, parce que il y a des bonnes choses dans ce, mais pas tout à fait. On va le corriger un peu. Eh ben non. Cette conclusion que je viens de lire est un programme humain qui est censé vous aider. Mais nous, on ne cherche pas à être maître de notre vie. C'est ça la différence. Il y a des bonnes choses qui veulent vous aider. Bah, ça va te faire du bien, tu vas être libre, etc. Mais en réalité, ça vous conduit dans un chemin un peu bizarre. Mais nous, au contraire, on ne cherche pas à être maître de notre vie, mais à lâcher prise pour celui qui est le maître de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, puisse en faire quelque chose qui le glorifie. Et nous ne sommes pas créateurs de notre vie non plus. C'est lui le créateur de notre vie. Donc, il ne faut pas apprendre tellement à mieux se connaître que apprendre à le connaître. C'est ça la nuance. Donc, des fois, on se sent très proche des bonnes idées humanistes pour notre bien-être, mais il y a une différence fondamentale et ça, c'est lui. Jésus n'est pas juste un plus dans notre vie. C'est lui l'origine de la vie et c'est lui qui nous apprend à mieux le connaître et là on franchit l'étape essentielle pour accéder au bonheur et à la paix intérieure. Et maintenant on peut dire amen qu'il en soit. Donc excusez-moi, je voulais pas trop vous embêter là, mais juste qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en alerte et qu'on sache bien à quel moment Dieu me conduit ou à quel moment je suis conduit par des choses humaines ou par des désirs personnels. Voilà, bonne application de tout ça et que Dieu vous fasse du bien dans votre quotidien.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.